Parfait. Fait que bienvenue à tous. On est bien content que vous soyez là pour cette étude, de se rencontrer ensemble pour l'étude de la parole de Dieu. On est dans le livre de Ruth, puis ce soir, on commence le chapitre 3 du livre de Ruth. On avait fait les deux premiers chapitres, puis là, on est rendu au troisième chapitre. Il y a seulement quatre chapitres. Fait que ça va quand même assez bien. Là, le troisième chapitre, c'est le repos de Ruth. C'est qu'on va regarder ça ensemble. On va lire premièrement, avant de commencer, on va lire le chapitre 3 du livre de Ruth. Verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, Qui es-tu? Elle répondit, Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai de toi, pour toi, tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se lava, leva avant qu'on puisse se rencontrer, reconnaître, excusez-moi. L'un et l'autre, Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, Aise-toi, ma fille. Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle et elle dit, Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Fait que le Seigneur bénisse la lecture de ta parole. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps encore ce soir. Merci que tous ont été en sécurité, qu'on a pu se rencontrer. On te remercie pour Diane qui va mieux maintenant. On te demande de continuer de l'aider à recouvrir de cette COVID. Puis, Seigneur, on te remercie pour ce temps passé ensemble. On te remercie pour ta parole. Bénis-nous encore. On s'attend de toi, Seigneur, par ton esprit, que tu puisses nous bénir. Puis que ça puisse nous aider à te connaître davantage. Et qu'on puisse te servir d'une façon qui te plaise. Au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on est rendu maintenant au chapitre qui nous introduit ça va être le repos de Ruth. On avait vu le processus au début, dans le début, quand ça avait été enclenché par Ruth, dans le chapitre 1, qu'elle avait fait la décision de retourner avec Naomi au pays de Bethléem, Juda, parce que Naomi retournait, puis Orpa, on avait vu qu'elle s'est détournée sur l'instance de sa belle-mère, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Tandis que Ruth, elle a pris une ferme décision et elle a dit vraiment à Naomi de ne pas l'empêcher, qu'elle allait aller avec elle, peu importe ce qui arrivait, qu'elle allait mourir avec elle, puis son peuple serait son peuple, puis où elle serait enterrée, son Dieu serait son Dieu, puis où elle serait enterrée. Ruth avait pris cette décision ferme de suivre Naomi et elle a continué dans cette décision-là. Donc, ça, c'est ce qui a enclenché le processus qu'on voit à travers le livre de Ruth, jusqu'à temps que ce soit la bénédiction totale. Le chapitre 2, on avait vu, c'était le service de Ruth. Elle était prête à aller glaner puis chercher le chant de celui à qui elle trouverait grâce à ses yeux. Puis elle, avec les instructions, comme on a vu, les instructions de Naomi qui lui dit toujours les instructions, puis elle obéit à la lettre et elle a servi dans le champ de Boaz. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz, puis Boaz qui l'a encouragée de rester avec ses servantes pour que, et ses serviteurs pendant toute la moisson. Puis c'est ce qu'elle a fait. Mais maintenant, on arrive au chapitre 3, puis là, c'est le repos de Ruth, parce que c'est beau, la moisson, c'est l'abondance. Mais là, maintenant, on va arriver au terme de la moisson. Mais là, elle a besoin d'un repos qui avait été mentionné. Naomi avait dit dans le verset 9 du premier chapitre que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Mais elle avait dit en voulant dire un mari dans Moab. Et on ne sait pas si Orpa, elle, a trouvé du repos avec un mari, parce qu'on n'entend plus parler de elle, mais on sait que Ruth, elle, a trouvé du repos avec un mari, mais pas en Moab, avec Boaz, qui est à Bethléem-Juda. Puis le chapitre 4, eh bien, on va voir la récompense de Ruth, la récompense entière que Boaz lui avait souhaitée, bien, elle va la trouver. Donc, on a vu que jusqu'à maintenant, dans un sens, Dieu l'avait dirigé, le Seigneur l'a dirigé dans le champ de Boaz. C'était un de ceux qui avaient le droit de rachat. C'était vraiment une bénédiction d'avoir arrivé dans le bon champ. Puis, mais aussi, elle avait profité des grandes bénédictions parce qu'elle avait été pourvue quand elle glanait. Boaz l'avait protégée, puis il avait dit, laissez-la glaner, puis ne l'inquiétez pas à travers les gerbes, puis même mettez-en un peu de côté pour elle, puis ça a permis qu'elle puisse avoir une bonne récolte dans un sens, en glanant dans le champ de Boaz, qui était généreux, puis qui lui a donné aussi à boire, puis il lui a donné aussi du grain rôti, du pain, puis il a dit de tremper son pain dans le vinaigre, on avait vu toutes ces choses-là. Mais maintenant, c'est bien beau, c'est le temps de l'abondance, de la récolte, de la moisson, tout ça, mais elle va avoir besoin d'une récompense entière. C'est ça que, parce que quand on se tourne vers le Seigneur, il nous donne une récompense entière. Puis Boaz lui avait souhaité, dans le chapitre 2 au verset 12, Boaz lui avait dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Seigneur, vous savez, c'est quelqu'un qui bénit abondamment. Le Seigneur, il veut, quand on s'approche de lui, il veut nous conduire jusqu'à la possession. Puis ceux qui arrêtent en chemin, ben c'est pas le Seigneur, il veut qu'on continue jusqu'au bout pour avoir la pleine bénédiction avec lui. Puis la pleine bénédiction, ben, c'est le salut de notre âme, puis d'être associé avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on est sauvé, on fait partie de l'Église. Puis l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un bâtiment, c'est vraiment le peuple de ceux qui sont sauvés, que le Saint-Esprit a baptisé ensemble, comme il nous dit. Nous avons tous en effet été ceux qui sont sauvés, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le but du baptême de l'esprit, c'était de former un corps, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas au contrôle des hommes, c'est vraiment au contrôle du Seigneur Jésus. C'est lui qui connaît les siens, il connaît ses brebis, puis ses brebis le connaissent. C'est tous ceux qui ont, par la foi, reçu le salut que lui donne après avoir reconnu leur péché et s'être associé à lui, comme on va voir, Ruth, c'est ce qu'elle a fait ici dans le chapitre 3. Donc, il lui avait souhaité une récompense entière, puis le Seigneur va lui donner cette récompense entière parce que le Seigneur, il est bon. Il est bon dans le sens qu'il veut nous bénir. Le Seigneur, c'est son désir de nous bénir. Ils disent que on lit dans la parole que le jugement, c'est l'œuvre étrange de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il va devoir, à cause de sa justice, juger. Mais il veut, avant de juger, il donne l'opportunité de pouvoir se réfugier en lui pour le salut de notre âme. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, au verset 10, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, on n'a pas à se contenter de des miettes avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous donner une pleine récompense, comme Boaz l'avait souhaité à Ruth ici. Mais le Seigneur ne commence pas non plus une œuvre en nous pour que elle va pas se terminer. Il va continuer jusqu'au bout. C'est ce que Paul disait aux Philippiens. Il disait dans Philippiens chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul allait dans les différents endroits, prêchait l'Évangile. Ceux qui étaient sauvés, il les rassemblait pour qu'ils puissent grandir dans leur foi. Puis c'est ça qu'il dit ici, là, Paul était persuadé, l'œuvre qui avait commencé dans un endroit, eh bien, le Seigneur allait la continuer pour le jour de Jésus-Christ. Des fois, il peut y avoir des périodes difficiles, puis des fois, c'est un peu à cause de notre désobéissance, mais le Seigneur va arriver à son but. C'est lui qui s'est engagé envers nous de nous emmener dans la gloire. Puis c'est lui qui va le faire. Au verset 1, on voit maintenant Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Elle leur avait dit auparavant, afin que vous trouviez du repos dans la maison d'un mari, dans le chapitre 1. Mais là, maintenant, elle veut qu'elle trouve du repos afin qu'elle soit heureuse. Ça, c'est le désir de Naomi. C'est que Ruth trouve le repos afin d'être heureuse. Mais on voit ici un changement d'attitude, comme on a dit, dans la part de Naomi. Naomi, auparavant, elle avait essayé de décourager Ruth et Orpa de chercher le repos en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle avait essayé de les détourner. On se demande un peu pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle était gênée de revenir vers son peuple avec des étrangers ou des étrangères dans ce cas-ci? Mais elle avait essayé, dans le chapitre 1, verset 9, elle avait dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Mais ensuite, au verset 11, elle dit, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Puis dans le verset 15, après que Orpa, elle, a décidé de retourner sur l'instance de Naomi, eh bien, Ruth, elle persévère. Puis Naomi lui dit au verset 15 du chapitre 1, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. On avait vu que Ruth a dit non, non, non. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, ainsi de suite. Donc, Ruth avait pas, Naomi n'avait pas réussi à dissuader Ruth de retourner parce que Ruth était déterminée. Puis c'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit déterminé pour aller vers lui, pour le trouver. Mais on a dit auparavant que Naomi est un peu un type du résidu juif qui revient après, parce que présentement, du fait que le peuple juif ou Israël a rejeté son Messie qui est venu à lui, mais sont sous un jugement présentement. Sont éloignés de Dieu. C'est un peu comme Ruth qui était pendant un temps, pas Ruth, mais Naomi avec Élimélec qui était au pays de Moab. Ben, le peuple juif, il y a un jugement sur eux présentement parce qu'ils ont rejeté le Messie. Paul, il nous en parle du mystère de l'aveuglement d'Israël dans le chapitre 9, 10, 11 de Romains. Puis ils sont éloignés maintenant. Mais un jour, elle, en revenant, elle est un type du résidu juif. Quand ils vont revenir à leur Messie, puis qu'ils vont être sauvés à ce moment-là. Donc, au temps du Nouveau Testament, on voit que les Juifs, puis encore aujourd'hui, Israël n'aime pas, n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. On parle ici en tant que nation, parce qu'il y a des individus d'Israël qui sont sauvés, qui ont reçu leur Messie en tant qu'individus. Mais en tant que peuple, ils ont rejeté le Messie. Puis on voit que le peuple juif, ils ont persécuté les chrétiens, ceux qui appartenaient à Christ au début, comme Paul a persécuté les chrétiens. Mais un jour, ils vont réaliser. Puis ils vont se repentir de leur péché, puis dans ce temps-là, ils vont être tous sauvés. Mais dans le temps du Nouveau Testament, puis encore aujourd'hui, on voit que les Juifs s'opposent à ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Le but de Dieu en les choisissant, c'était de faire parvenir la rédemption à toutes les nations. Mais ils sont dans l'égarement, ils sont dans l'aveuglement présentement, puis ils s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'on sait que le salut maintenant, le Saint-Esprit a formé l'Église pour aller, puis le Seigneur a donné à l'Église le mandat d'aller prêcher l'Évangile à toutes les nations. Mais eux, ils s'opposaient dans le Nouveau Testament, puis ils s'opposent encore aujourd'hui, parce que pour un Juif qui se converti au Seigneur Jésus-Christ, mais il y a les persécutions de la part de sa nation. On le voit au temps du Nouveau Testament. On va aller dans Actes au chapitre 22. On le voit ici quand Paul a parlé que Dieu l'avait envoyé, le Seigneur l'avait envoyé vers les nations. Mais là, c'était la parole qui les a fait éclater. Dans le chapitre 22 des Actes, au verset 21 à 23, parce que là, il se défendait, il était allé à Jérusalem, au temple, puis là, il revenait d'un voyage missionnaire, puis là, c'est là qu'ils se sont opposés à lui, puis il était vraiment violent envers lui. Puis là, il a eu l'opportunité de pouvoir s'adresser au peuple, puis il dit ici, au verset 21, alors il me dit, en parlant de sa conversion, il parlait de sa conversion, peut-être qu'on va lire le verset 20. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Paul était présent quand Étienne était dans le chapitre 7 des Actes, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Quand Paul était sauvé, le Seigneur l'a envoyé vers les nations. Puis là, à ce moment-là, au verset 22, il dit, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. On voit comment ils ont été agités. Puis qu'est-ce qui les a vraiment amenés à cette agitation-là? C'est quand il avait prononcé ces paroles que le Seigneur lui avait dit, va, je t'enverrai vers les nations. Puis on voit que ça a suscité toute une réaction. Puis ça n'a pas été facile. Mais on voit aussi dans le chapitre 21, des Actes, c'était le début quand ils l'ont trouvé à Jérusalem. Puis dans les versets 28-29, peut-être on va lire verset 16, attendez un petit peu, 27. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple et contre la loi. Contre ce lieu, en parlant du temple, il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Puis toute la ville a été émue, puis c'est là que ça a fait une émeute, puis vraiment, on voit comment est-ce qu'ils étaient opposés à l'idée que le salut maintenant se tourne vers les nations. C'est ce qu'eux auraient dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, mais là, ils sont vraiment agités, ils sont vraiment offensés que Paul se tourne vers les nations parce que le Seigneur l'a envoyé vers les nations. Mais on voit que ça a été une période difficile pour l'Église même d'aller vers les païens parce que on sait que l'Église, au début, c'était des Juifs, c'était des gens d'Israël, les apôtres sont des Juifs. Mais le Seigneur a fallu que le Seigneur leur démontre qu'il fallait qu'ils aillent, qu'ils regardent pas non plus les païens comme des gens à part. Il fallait qu'ils voient les païens comme les gens que le Seigneur faisait entrer au moment du salut, faisait entrer dans l'Église, puis au même niveau. Il voulait pas, Dieu a fait en sorte que le Seigneur a fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre Juifs et Grecs. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, puis il n'y a pas de différence des Juifs, des Grecs, des esclaves, des libres. On est hommes, femmes, on est tous à part, à même part, faisant partie de l'Église au même titre. Puis, mais parce que Pierre, quand Pierre, dans le chapitre 10, il a été envoyé, c'est lui qui a ouvert la porte. Le Seigneur lui avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre, il l'avait envoyé pour ouvrir la porte. Puis Pierre, c'est-à-dire, c'est lui qui a prêché le premier à Jérusalem. Il a prêché pour amener l'évangile aux Juifs. Puis c'est lui aussi qui a ouvert la porte aux païens dans le chapitre 10. Du livre des Actes. Quand il est allé, le Seigneur a fallu que le Seigneur le convainque avec une nappe. Il était en extase, il avait faim, puis il était sur le toit, puis en extase, il a vu une nappe descendre du ciel avec les animaux purs et impurs sur cette nappe-là. Puis trois fois qu'il a vu cette vision-là, puis le Seigneur lui disait, Pierre, tue et mange. Puis Pierre s'opposait parce qu'il disait, jamais, Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Puis il s'opposait à ça. Puis Seigneur lui disait, ce que j'ai déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Puis ces animaux-là représentaient les nations, les païens, ceux qui n'étaient pas des non-juifs. Puis là, le Seigneur lui l'instruisait d'aller vers les nations, parce que c'est lui qui devait ouvrir la porte. Puis on sait que Pierre s'est laissé convaincre après 3 fois que la vision est venue. Puis à ce moment-là, il y a des hommes qui sont venus de la part de Corneille, qui ont venu frapper à la porte, puis ont demandé à Pierre que Corneille avait vu une vision, puis avait demandé d'aller chercher Pierre, qui était chez un certain Simon Corroyeur à Joppé. Fait qu'ils sont allés le chercher. Mais même après, puis Pierre était convaincu aussi, puis il dit, quand j'ai ouvert la bouche, ben, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Puis quand il est revenu dans le chapitre 11, on voit que il a fallu qu'il rende compte dans l'acte 11, au chapitre 11, verset 2, ceux qui étaient des convertis juifs, ils ont demandé à Pierre, comment ça que tu es allé chez les païens? Puis là, il leur a tout expliqué comment le Seigneur l'avait convaincu d'aller vers les païens. Puis qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Puis il dit, pouvais-je m'opposer à Dieu, moi? Il ne pouvait pas s'opposer au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait dirigé. Puis eux, ils ont été satisfaits. Là, ils ont réalisé, ils ont dit donc, les païens, ils ont part au Saint-Esprit comme nous. Fait que c'était important que ça puisse se faire. Le Seigneur, il voulait faire ça. Mais on voit toujours que ceux qui ne sont pas convertis, les Juifs, ils sont contre ça encore aujourd'hui, là. Mais quand un jour ils vont se réconcilier avec leur Messie, là, ils ne seront plus contre. C'est ça, on parle de Naomi, qui est un type de ce résidu-là juif qui était égaré. Maintenant, en revenant, elle a changé son attitude, Naomi. Avant ça, elle voulait que les femmes Moabites de ses fils restent dans le pays de Moab, par laquelle elle retournait, mais après quand elle est revenue avec Ruth, maintenant, elle veut que Ruth trouve un plein repos. On va aller peut-être en Romains pour voir comment le résidu juif va agir quand ils vont être convertis dans le chapitre 11 de Romains, les versets 11 à 12. Puis il y a des gens aujourd'hui qui nous disent que Dieu en a fini avec Israël, mais je ne sais pas quelle Bible qu'ils lisent, parce que ce n'est pas la même que moi, parce que dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas fini. Dieu a fait des promesses à Israël, à Abraham, à Isaac, à Jacob, aux patriarches, puis il va les accomplir parfaitement. Dieu ne se repent pas de ce qu'il a planifié. Puis, en dépit de toute leur incrédulité, en dépit de toute leur désobéissance, Dieu, dans sa souveraineté, va leur donner qu'est-ce qu'il leur avait promis. Puis quand on lit dans le chapitre 11, au verset 11 de Romains, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, c'est-à-dire Israël, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, Dieu, on dit c'est le plan B, mais Dieu voulait rejoindre les nations à travers les Juifs. Mais ils ont manqué à ça. Mais en dépit de leur manquement, Dieu arrive à son but quand même. Puis on voit qu'il y a un but là-dedans, parce qu'en sauvant les nations, ben, en même temps, ils recherchent Israël pour les exciter à la jalousie, qu'ils vont voir que si nous qui étions des désobéissants auparavant, on a été graciés, on a eu la miséricorde, ben, ils vont voir qu'eux aussi, quand ils vont réaliser qui aussi ont été désobéissants, ils vont aussi avoir la miséricorde pour Dieu. Puis au verset 12 de Romains 11, il dit, or si leur chute a été la richesse du monde, oui, parce que leur chute fait en sorte que le Seigneur s'est tourné vers les nations avec l'Église, et leur amoindrissement, la richesse des païens, mais il dit, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Puis moi, je suis convaincu que quand Israël va se convertir, là, ils vont être vraiment des évangélistes. Ils vont proclamer dans la tribulation. On pense, il y a les 12 000 de chaque tribu, des 12 tribus d'Israël. Il y a les deux témoins. Ils vont aller, puis ils vont vraiment évangéliser le monde, les nations. Parce que ceux qui vont arriver à la fin de la tribulation, nous autres, on va être partis avant la tribulation, à l'enlèvement de l'Église. Mais durant la tribulation, il va y avoir des nations avec Israël qui vont rentrer à la fin dans les brebis, qui vont rentrer dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, d'un royaume de millénaire, de 1000 ans. Donc, il va y avoir beaucoup qui vont se convertir. Ils vont se convertir à cause du témoignage du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on voit que Naomi a changé d'attitude. Maintenant, elle veut que Ruth ait une pleine récompense. Elle veut que Ruth trouve le repos afin qu'elle soit heureuse. Donc, c'était l'intention de Dieu quand il les a choisis de transmettre le message de salut aux nations. Mais il devait le faire, mais sans se mêler à la façon d'agir des nations. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils se sont séparés, puis c'est comme s'ils disaient, d'autres, on n'est plus saints qu'eux autres. Les autres, c'est des chiens, c'est des gens du dehors. Mais ce n'était pas le but de Dieu. Puis le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il leur a dit, hein, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, mais c'est un païen qui était purifié de sa lèpre. Hein, qui a été Naamac. Attendez un petit peu, c'est... Son nom m'échappe, mais c'est lui qui a été guéri au lieu d'un juif. Fait que le Seigneur leur montre qu'ils devaient aller, mais le problème qu'ils n'ont pas compris, Israël, c'est qu'ils ne devaient pas imiter les nations. Parce qu'en imitant les nations, ils perdaient leur témoignage. Il n'y avait plus un témoignage, parce qu'ils devaient être un peuple à part, ils devaient être un peuple acquis, ils devaient avoir des coutumes différentes, ils devaient marcher selon la loi de Dieu. Puis, en marchant selon la loi de Dieu, ils pouvaient être des témoins. On sait que Salomon, dans sa gloire, c'était vraiment la gloire de Dieu, le temple à Jérusalem, avec tout le service qui se faisait, bien, ça a proclamé au-delà de la reine de Séba qui est venue jusqu'à Jérusalem pour voir ces choses-là. C'est que c'était le but de Dieu avec les Juifs, c'était de démontrer vraiment la puissance de Dieu pour rejoindre les nations. Mais comme pour nous autres aussi, c'est la même chose. Pour l'Église, on est la même chose. Puis c'est triste de voir quand l'Église veut imiter le monde, parce que là, on perd notre témoignage. Mais on n'a pas besoin, il ne faut pas imiter le monde. On n'a pas besoin d'attirer le monde en leur donnant ce qu'ils veulent. Ce qu'on a, le message qui nous a été donné de transmettre, c'est la grande commission, c'est le salut en Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le Seigneur a prié dans ce sens-là. Puis il faut bien comprendre ça, que en tant que le peuple de Dieu maintenant, nous, l'Église, ceux qui sont sauvés, il ne faut pas imiter les nations. C'est un peu notre pensée première. Là. Quand on est sauvé, on dirait qu'on ne veut pas laisser les choses du monde, on veut juste les christianiser. Hein, on voudrait avoir les choses du monde, mais d'une façon chrétienne. Mais non, le monde, si on leur offre la même chose qu'ils ont, ou un substitut, c'est ça, des fois, il y avait la musique rock chrétienne. Ben, le monde, ils ont la vraie musique rock. Puis si on leur offre quelque chose qui est un substitut, et ça les satisferait pas, ils seront pas satisfaits de ça. C'est un peu comme si quelqu'un aime le café, puis on lui donne un substitut de café, ça fait pas l'affaire. Fait que eux, c'est un peu comme s'ils disaient, nous autres, on l'a le vrai. Vous autres, c'est une imitation. Mais on n'a pas besoin de leur offrir ce qu'ils ont déjà. On a besoin de leur offrir l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr qu'il y en a qui vont rejeter. Ils ne sont pas portés à ça, ils vont rejeter, mais ceux qui vont se repentir, c'est eux autres. Ce n'est pas nous autres qui sauvent. On a juste un message à transmettre. C'est ça qui est important. Le Seigneur avait dit dans Jean 17, 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Vous savez, l'Église, c'est comme un bateau. On entendait ça, M. Bernier parlait de ça. Il disait, l'Église, c'est comme un bateau qui est dans l'eau. Puis là, il y en a qui disaient, ben, si on fait un trou dans le bateau, quand le bateau va descendre, ça va être plus facile pour ceux qui sont dans l'eau d'embarquer dans le bateau, sauf que le problème, c'est que le bateau va couler. Mais quand le bateau est dans l'eau, il n'y a pas de problème. Ça, c'est normal. Un bateau, c'est fait pour être dans l'eau. Mais quand l'eau est dans le bateau, là, ça ne va pas bien. Puis c'est ça qu'on est, nous autres. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Puis on n'a pas besoin d'imiter le monde. On doit être un peuple acquis, un peuple que le Seigneur Jésus s'est acquis par son propre sang. Puis on doit vraiment témoigner. On doit démontrer la différence de ceux qui ne se sont repentis de leur péché, puis qui ont reçu le salut de Dieu par Jésus-Christ, puis par son Saint-Esprit qui nous l'a appliqué. Puis c'est pour ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça qu'on est appelé à démontrer, être différent du monde, mais dans le monde. Parce que à qui qu'on témoignerait si on n'était pas dans le monde? On sait que dans la religion, ils ont voulu se soustraire au monde. Puis ils ont fait pareil comme Israël. Israël sont comme soustraits du monde. Ils ont vu comme des chiens, puis ils ont laissé en dehors. Mais quand ces hommes-là sont allés dans des monastères, ben, il n'y avait plus de témoignages. De toute façon, ils ne témoignaient pas vraiment, mais il n'y avait plus de témoignages parce qu'ils étaient tout ensemble. Puis ils se sont aperçus que dans leur mur cloîtré, ben, le péché était là avec eux autres parce qu'il était dans leur cœur. Puis ils n'étaient pas mieux que les gens du dehors. Fait qu'il faut vraiment, c'est de rester près du Seigneur tout en marchant dans le monde, mais pas faire partie du monde, mais étant une lumière dans le monde. Si on est sorti du monde, on n'a plus le témoignage qu'on doit porter. Mais au verset 2, ici, elle nous dit, et maintenant, Boaz, elle voulait qu'elle soit heureuse. Puis là, c'est un peu une tangente, on a vu comment les Juifs, et quand ils vont être réconciliés, là, ils vont vraiment être des témoins pour le Seigneur, comme ils auraient dû l'être auparavant. Puis nous autres, en même temps, l'exemple pour nous autres d'être des vrais témoins, de démontrer ce que le Seigneur peut faire. Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ça fait que si on parle de l'Évangile, puis il n'y a pas de différence, mais on serait mieux de se taire. Mais quand notre vie est sanctifiée, quand on est sanctifié par le Seigneur, là, même on n'a pas toujours le besoin d'ouvrir la bouche, les gens vont le voir. Quand ils savent qu'on est chrétien, ils vont le voir. Puis quelqu'un disait, il faut toujours prêcher l'Évangile, puis s'il faut, des fois, il faut parler. Mais par nos œuvres, on peut témoigner de la puissance de l'Évangile dans nos vies. Mais au verset 2, on voit que tout est en relation avec Boaz. On dit, et maintenant, Boaz. Là, c'est Ruth, Naomi qui parle à Ruth, puis elle veut qu'elle soit heureuse, puis là, elle la pointe vers le bon endroit, elle dit, et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Donc, tout est en relation avec Boaz. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux? Elle dit, il est notre parent. C'est celui, c'est vraiment, là maintenant, ils peuvent se tourner vers lui avec une attente, sachant que lui a droit de rachat. Puis non seulement il a droit, c'est un peu comme le lépreux qui était venu vers le Seigneur Jésus, il avait dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais il fallait que le Seigneur le veuille, puis le Seigneur il a dit, je le veux, il pouvait le faire, mais il voulait aussi le faire. C'est un peu ça qu'on va retrouver avec Boaz. Boaz peut le faire, mais on va voir que Boaz veut aussi le faire. Parce qu'il est un type du Seigneur Jésus, puis le Seigneur, il peut nous sauver, puis il veut aussi nous sauver. C'est son désir. Donc, maintenant, c'est la fin de la moisson. Elle est arrivée à la fin de la moisson, puis elle a glané pour la nourriture, mais ça ne s'arrête pas là. Il reste tout le reste de l'année, là. Il y avait la moisson des orges, après ça, la moisson du froment ou du blé. Puis, mais là, il reste toute l'année, là. Il faut qu'elle pour son besoin. Mais maintenant, c'est le temps de vanner ce qui a été moissonné. Donc, vanner, après qu'on a, comme aujourd'hui, nous autres, on voit qu'il y a des moissonneuses-batteuses. C'est des machines qui vont dans les champs. Puis, en moissonnant, ils battent aussi le grain. C'est que tout se fait dans une opération. Mais dans ce temps-là, puis même quand moi j'étais jeune, on amenait l'avoine, le grain, avec les gerbes, on les amenait. Puis après ça, il fallait les passer de ce qu'on appelait une batteuse, un moulin à battre, qu'on appelait ça. On passait, ça c'est vraiment la criblure, d'enlever la criblure, enlever la paille pour séparer le grain de la tige, puis de l'écaille même, du grain, pour garder ce qui est bon, puis rejeter ce qui n'est pas bon. C'est une séparation qui se fait ici, et on appelait ça vanner. On va expliquer un petit peu pourquoi qu'on appelait ça vanner. Mais ici, c'est remarquable que pendant la moisson, il y avait des serviteurs qui faisaient la moisson. Puis il y avait des servantes aussi. Mais maintenant, là, c'est Boaz qui fait la criblure. C'est Boaz qui va vanner son grain. C'est un travail qui revient à lui, là. C'est de séparer la balle du grain. Puis ça, c'est seulement Boaz. Il ne parle pas de serviteur. C'est lui maintenant qui va dans l'air. L'air, on va expliquer ça aussi. Mais il va là pour vanner la moisson. Parce que c'est, vous savez, quand le Seigneur a parlé de la parabole de l'ivraie qui a été semée dans le champ avec le bon grain, avec le bon blé, ben ils ont dit, veux-tu qu'on y aille arracher l'ivraie? Puis le Seigneur a dit, non, 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 laissez ça jusqu'à la fin, laissez-les croître ensemble, de peur qu'en déracinant l'ivraie, vous déracinez aussi le blé. Puis c'est important parce que c'est pas nous autres, on connaît pas nous autres qui est vraiment sien. Mais le Seigneur, lui, il connaît les siens. Puis c'est lui qui fait ce travail-là. Puis ça, c'est Boaz lui-même qui va accomplir ce travail. Jean-Baptiste l'avait dit dans Matthieu 3, versets 11 à 12. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. C'est le baptême de repentance de Jean le Baptiste. Il dit, pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et des fois, il y a des gens qui prient pour être baptisés de feu. Non, non, ça, c'est pas une bonne chose d'être baptisé de feu. Le feu, c'est jugement. Mais il baptisera du Saint-Esprit et de feu. On sait que le Seigneur, dans le baptême du Saint-Esprit, il inclut ceux qui ont mis leur foi en lui, il les inclut dans le corps, qui sont l'Église. Mais puis il l'explique après ça. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. C'était comme une pelle. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Fait que ça, c'est le baptême de feu. La paille est brûlée dans un feu qui ne s'éteindra point, puis le feu qui ne s'éteindra point, mais on sait que dans la parole de Dieu, ça représente le feu éternel. C'est l'étang de feu, là où les non-sauvés avec Satan vont être jetés dans l'étang de feu pour toute l'éternité. Mais le blé, il le ramasse dans son grenier. Donc, ce travail-là se faisait le soir. Pour ça que c'est le soir qu'il fait ce travail-là. Le travail se faisait le soir quand le vent soufflait après une journée chaude. Quand tu as une journée chaude avec la mer, le vent, il se lève, puis là, le soir, le vent vient. Puis, il y avait besoin du vent pour cribler ici. On battait là, on allait sur un plancher élevé, puis on jetait le grain en l'air, dans les airs. Puis en jetant le grain dans les airs, bien, la paille, la criblure est plus légère que le grain lui-même, puis elle s'envole au vent, elle part au vent. Puis tandis que le blé, lui, tombe sur le plancher, puis on ramassait ensuite le blé. C'est comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, ça se fait, comme on a dit tantôt, avec des machines, des moissonneuses-batteuses, mais c'est ça qui arrive. Ça produit du vent, ça bat le grain pour qu'il détache l'écaille, détache la paille, puis le vent souffle la paille. Puis je me souviens, quand on était jeune, je mets ça quand il y avait des porcs qui arrivaient de la machine du moulin à battre qu'on appelait. Puis il y avait des poches qu'on attachait, il y avait des crochets, on attachait des poches, puis il y en avait deux avec un volet. On remplissait une poche, puis pendant qu'elle se remplissait, on décrochait l'autre pour la mettre de côté, puis en raccrocher une nouvelle. Puis quand elle était pleine, on tournait la chose pour que ça allait dans celle qui était vide. Puis là, c'était plein de bons grains là, qui tombaient tous dans la poche. Là. Toute la paille était partie. C'est ça qui est l'action de vanner ici. C'est ça qu'il faisait. Mais on lançait en l'air, puis parce que la paille était plus légère, elle s'en allait. Mais aussi, la nuit représente aussi la mort et l'ensevelissement du Seigneur Jésus. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 1 et 2, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Quand le Seigneur Jésus a reçu le châtiment que nous méritions, il a été jugé pour notre péché. Il dit, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Donc, le soir représente ça aussi, c'est la nuit du Seigneur Jésus. Quand il est mort, selon les Écritures, il a été enseveli. Mais il est ressuscité, il est ressorti le troisième jour selon les Écritures. C'est pour ça que cette nuit-là, ici où il va vanner, ça représente le fait qu'il a été enseveli, qu'il est mort, qu'il a été enseveli. C'est ça que ça représente. Puis le matin, bien, il s'est relevé pour aller accomplir le travail qu'il avait accompli, c'est-à-dire de racheter Ruth ici. Mais dans le verset 3, Naomi. Elle instruit Ruth d'aller dans l'air. Elle lui dit, c'est ça, ici, il dit, voici, au verset 2, elle avait dit, voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Et là, lui dit au verset 3, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Donc ça ici, ça représente l'identification qu'on a besoin de s'identifier avec le Seigneur Jésus, d'être identifié dans sa mort, dans son ensevelissement, puis aussi dans sa résurrection, parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce qu'on méritait. Puis il nous faut mourir, mais on meurt en Christ. On est associé à l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans Romains 6. Puis Romains 6, souvent on utilise Romains 6 pour expliquer le baptême d'eau. Puis le baptême d'eau est une illustration du baptême de Romains 6. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on est sauvé par le baptême. Ben, moi, je disais ça à quelqu'un, je lui montrais ça, puis lui, il nous parlait de Romains 6. Mais j'ai dit, comment tu fais pour voir de l'eau là-dedans? Mais il dit, comment toi tu fais pour pas voir de l'eau là-dedans? Mais je dis, il n'y a aucune mention de l'eau. C'est pas dans l'eau qu'on est baptisé dans Romains 6. On est baptisé dans la mort, dans l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit ici, chapitre 6, versets 3 à 5, il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, donc on a été baptisés en Jésus-Christ, donc c'est pas dans l'eau, c'est en Jésus-Christ qu'on a été baptisés, c'est en sa mort. Donc, la substance dans laquelle on a été baptisés, ceux qui sont sauvés, c'est dans sa mort. Par le baptême, nous avons donc été. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc ça, c'est une expérience que tous ceux qui sont sauvés ont dû avoir cette expérience-là. Parce qu'il nous fallait mourir avec Christ, être ensevelis avec lui, puis ressusciter avec lui. C'est pour ça que maintenant, on vit d'une vie nouvelle, on vit d'une vie de ressuscité, la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'y a pas d'eau ici du tout. Mais l'eau, le baptême d'eau représente ce baptême qui s'est accompli pour tous ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Bien, ils ont été baptisés spirituellement. Ça s'est fait. Ce n'est pas des hommes qui l'ont fait, c'est le Seigneur lui-même qui nous a baptisés dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Puis dans son ensevelissement, puis dans sa résurrection. Ça, c'est son œuvre à lui. Mais personne n'a vu ça. Mais quand on le fait dans l'eau, ben c'est ce qu'on veut représenter. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on ne met pas un petit peu de terre sur la tête. On les met dans la terre. Il y a un trou qui est creusé. On les envoie dans la terre. On les enfouit dans la terre. Puis on met la terre par-dessus les autres pour qu'ils soient complètement enterrés. Sauf que quand on ressuscite, ben là, on ressort de la terre. C'est pour ça que le baptême d'eau, c'est fait par immersion. Parce que même le mot baptiser, ça veut dire plonger, tremper. Ça fait que quand on baptise, donc pour représenter que quelqu'un est vraiment passé spirituellement par le baptême dans la mort puis dans l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ et dans sa résurrection, ben, on les met sur leur profession de foi, comme le Seigneur nous a demandé de le faire. On les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on les plonge, on les immerge complètement dans l'eau, comme s'ils étaient enterrés. Puis, quand ils ressortent de l'eau, ben, ça représente la résurrection. Puis moi, j'aime à dire, quand il y a un baptême, surtout quand il y a du tapis sur le plancher, quand celui qui a été baptisé, quand il ressort de la tank, ben ça imprime des pas. Parce que ça fait des pas trempent sur le tapis. Puis on peut suivre qui s'en vont pour aller se changer. Puis moi, j'aime à dire dans ce temps-là, je dis, ben là, ces pas-là vont être vus jusque dans l'éternité. Parce que c'est le témoignage qui commence. On s'affiche publiquement pour le Seigneur Jésus. Puis notre témoignage commence là. Les gens vont nous observer maintenant pour voir est-ce que c'est vrai maintenant qu'on vit une vie nouvelle, une vie de résurrection, puis qu'on ne vit plus dans le péché comme auparavant. C'est sûr qu'on est encore des pécheurs, mais il y a une progression, il y a une victoire qui est acquise sur le péché, qui continue tout au long de notre vie chrétienne jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Puis à l'enlèvement de l'Église, en un instant, en un clin d'œil, cette transformation-là va être complète. Puis là, on va s'en aller dans la présence du Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Donc, c'est ça que ça représente ici. C'est l'expérience que le sauvé a fait spirituellement pour passer de la mort à la vie. Puis là, maintenant, on vit de la vie de Christ. Paul pouvait dire, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Mais le croyant qui se fait baptiser d'ici, là, bien, c'est lui, il dit au monde, il proclame au monde, moi, je suis mort avec Christ. J'ai été enseveli avec lui. Oui, j'étais un pécheur, mais je suis mort avec Christ. J'ai été fait une même plante avec lui. Quand il est descendu au tombeau, je suis descendu avec lui. Puis quand il est remonté, ben, je suis remonté avec lui. Des fois, je le fais avec un petit bonhomme que je mets dans ma Bible. Puis quand je le mets dans ma Bible, je me dis, partout où la Bible va être, le petit bonhomme, il va être dans la Bible. Fait que si je mets ma Bible sur la tablette, le petit bonhomme est sur la tablette parce qu'il est dans la Bible. Puis si je plonge ma Bible dans l'eau, ben, le petit bonhomme, il est dans l'eau aussi parce qu'il est dans la Bible. C'est comme ça notre identification avec le Seigneur Jésus-Christ. On a été fait une même plante avec lui du fait que quand il est mort, on est mort avec lui. Puis quand il a été enseveli, on a été enseveli avec lui. Mais quand il est ressuscité, ben, on l'a suivi dans la résurrection. Puis on est ressuscité avec lui pour vivre une vie nouvelle. Mais on avait dit que l'air, c'était un plancher élevé. Et maintenant, elle lui dit, descends à l'air. Et on se dit pourquoi? Ben si l'air, c'était un plancher qui était élevé pour que le vent puisse enlever la criblure et la paille, mais là, pourquoi qu'elle lui dit maintenant, descends dans l'air? Puis au verset 6, on voit qu'elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Ben, c'est qu'ici, il est question d'une descente dans l'humilité. Il faut s'humilier. C'est pour ça. Puis vous savez, le péché, c'est l'orgueil. C'est là l'origine du péché, c'est l'orgueil de Satan. Puis nous, on est entrés dans cet orgueil-là, puis on veut se passer de Dieu, on n'a pas besoin de lui. Mais quand on est sauvé, il faut. C'est pour ça que vraiment le remède du péché, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité, c'est de perdre son orgueil. C'est de s'humilier devant Dieu. Puis c'est pour ça qu'elle descendit à l'air. On descend puis on descend dans la mort et dans l'ensevelissement. Pour après ça être élevé. Puis le temps est pas mal arrivé. Je sais pas si on va avoir le temps vraiment de regarder ça ce soir là, mais c'est une descente dans l'humilité. Puis c'est vraiment la façon que le Seigneur a passé avant nous dans cette humilité-là. Le Seigneur est descendu lui aussi. Lui, il avait pas besoin de descendre, mais il est descendu. On n'aura pas le temps de regarder ça à soir. Je vais attendre pour la semaine prochaine, Seigneur voulant, parce que c'est quand même, ça prend un petit peu de temps pour regarder cette humilité-là, comment la descente a fait remonter. Puis c'est ça que nous autres aussi, on descend dans cette identification-là avec le Seigneur, mais on remonte avec lui dans la résurrection pour une vie nouvelle. Puis c'est ça qui est merveilleux dans le Seigneur. Vous savez, il n'y a aucune religion sur la terre qui peut donner une expérience comme ça à un pécheur. C'est seulement le salut en Jésus-Christ. Parce que les autres religions, c'est faites-le toi-même, c'est toi qu'il faut qu'il gagne ton salut. Mais le christianisme biblique, c'est le seul qui a un sauveur. Puis ce sauveur-là, c'est lui qui nous prend. Quand on s'identifie avec lui par la foi, c'est lui qui nous prend, puis il nous fait passer dans cette expérience-là de la mort. On meurt avec lui, on est enseveli, puis on ressuscite avec lui pour une vie nouvelle. Puis jusque dans l'éternité. Ce que je m'arrête là pour tout de suite, je vous donne la possibilité, puis on regardera ça la semaine prochaine, Seigneur voulant, à moins qu'on soit enlevé avant, mais on va regarder, Seigneur voulant, la semaine prochaine pour voir qu'est-ce que ça représente, cette humiliation-là du Seigneur. Attendez un petit peu, je vais aller. C'est dans les participants qu'il faut que. OK. Je vais vous donner la possibilité de prendre votre micro. C'est que vous pouvez le prendre maintenant. Si jamais vous avez une difficulté, laissez-moi savoir. Je vais vous donner la possibilité de le faire. C'est que je m'arrête là, puis je vous laisse la place pour des questions ou des commentaires.
Gérald,
Oui.
si on est enlevé, On va tout comprendre ça, là.
Ah oui,
Tu n'auras
c'est
pas
sûr.
besoin de l'expliquer.
Ah, non, je vais dire, meilleur professeur.
Puis j'allais dire, tu sais que ma voisine est juive.
Oui.
Puis j'y parle quand même du Seigneur, tout ça. Puis l'autre jour, j'y en parlais. Puis elle m'a dit, tu sais, Lise, un vrai juif ne croira jamais au Messie.
Oui, ouais.
Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Ben
Je continue à prier pour elle.
oui. Ouais.
Mais elle se dit, une vraie juive, elle ne peut pas croire au Messie.
Ouais. À Jésus comme Messie.
Jésus.
À Jésus comme Messie,
Ouais, c'est
c'est ça.
ça.
Au Messie, parce qu'il
Ouais.
faut.
Parce que ça, il attend encore le Messie.
C'est ça.
Parce que je demandais à un juif, notre guide, quand on était allé en Israël, on était sur la montagne des Oliviers, puis on regardait la montagne du Temple en face. Puis quand il avait fini de parler, j'attendais qu'il finisse ses explications, puis les gens jasaient ensemble. Puis là, je suis allé le voir, puis j'ai dit, les Juifs, j'ai dit, ils ne croient pas que leur Messie est déjà venu. Puis lui, il m'a dit, il dit, ben, il dit, il y en a qui disent qu'il est venu, puis il y en a qui disent qu'il n'est pas venu. Il dit, quand il va venir, on va lui demander s'il était déjà venu. Fait que j'ai dit, t'auras pas besoin de lui demander. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, quand tu vas voir ses mains percées, son côté percé, tu vas savoir qu'il était déjà venu. C'est comme tu dis, Lise, là, quand on va en faire l'expérience, on n'aura plus besoin d'explication, ça va être une image vaut 1 000 mots.
Oui, parce qu'on a, elle a de la Bible en hébreu, puis elle
Ouais.
parle hébreu, puis
Oui.
elle lit l'hébreu, puis je l'amène souvent dans Ésaïe. Mais en tout cas, on continue à prier pour elle. C'est
Ah.
l'Esprit qui va faire le travail.
Oui. Mais on a entendu des gens qui ont dit jamais. À un moment donné, ils se sont repentis. Puis...
C'est l'Esprit qui fait le travail.
Ouais. On
Hein?
était bien contents.
Un miracle.
Un miracle, oui, c'est ça.
Oui, je
Oui,
voudrais.
Gérald, j'aurais une question.
OK.
Je lis deux versets là, dans chapitre 3, verset 12.
OK.
Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Et je veux lire dans chapitre 2, le verset premier. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ma question, c'est que si ça avait été son frère, ça aurait été mentionné. Je sais qu'on ne le sait pas, mais qu'est-ce qu'on peut penser, proche-parent? Un oncle, un cousin? Qu'est-ce Mais
qu'on...
c'est sûr que ça, c'est tout un sujet aussi. Quand on va arriver là, on va expliquer ça plus en détail. Là. Mais on voit que ce proche parent-là, on va voir que c'est qui là, à ce moment-là. Là. Je ne vais pas le dévoiler tout de suite. Ça va être dans ce temps-là, le suspense.
OK, c'est bon, merci.
Mais c'est tout un
Patient,
sujet, ça
c'est.
aussi.
On appelle ça la loi du silence.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, normal, ça. Mais c'est important, ça fait toute partie du plan de Dieu. C'est parce que quand on voit des types comme ça, tu sais, tous les détails sont importants.
J'aimerais faire un commentaire.
Oui.
Je trouve tellement que l'image de la moisson nous donne un panorama du salut.
Oui.
Puis la grand-mère Alice, elle nous expliquait que dans le champ, parce qu'elle cultivait l'avoine, il y avait de la folle avoine,
Okay, oui.
mais que c'était à maturité qu'on reconnaissait la folle avoine. Parce que la folle avoine, il n'y a pas de farine dans le grain. Donc, elle se tient debout,
Ouais.
tandis que l'autre, l'avoine véritable, elle, elle courbe la tête.
C'est ça, exactement.
Puis, on parlait d'humilité à la fin. Puis, je me disais aussi, quand on vannait, ben, le grain qui n'avait pas de
De
farine,
farine.
mais il était soufflé par le vent.
Ouais.
Puis on voit que le travail de l'esprit va faire une œuvre à la fin pour
Ouais.
séparer l'ivraie du bon grain.
Oui.
On
C'est ça, il n'y a pas
parle
eu.
des vrais des faux croyants, si
C'est
on
ça,
peut
ouais.
dire. Fait que je trouve que l'image est complète, là.
C'est ça, c'était comme une imitation, mais
Okay.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Fait qu'il n'y a pas la substance, là, puis il n'y a pas eu l'humiliation
L'humilité.
parce que la tête, elle ne se court pas.
Non, c'est
Non,
ça.
c'est puis Orpah, c'est ça ce qu'elle voulait dire. Orpah, là, c'était le coup raide, là. Orpah est partie, elle, mais Ruth est restée. C'est que dans la tribulation, il va y avoir un épurement aussi, là. Puis
Oui.
même si on est persécuté avant l'enlèvement, il va y avoir des gens qui se disent chrétiens qui vont peut-être laisser le bateau.
Mais on retrouve le principe de la séparation,
Exactement.
de la purification, de la sanctification.
C'est ça. C'est pas un sujet qui est populaire aujourd'hui, la sanctification.
Non, non.
Voilà. Mais ça, souvent, il n'y a pas de sanctification, puis l'on se demande qu'est-ce qui se passe.
On voit aussi, Gérald, que Naomi, elle n'a pas attendu la fin des récoltes, parce qu'on voit la première récolte, c'est l'orge, la deuxième récolte, c'était le froment ou le blé. Elle n'a pas attendu que Boaz ait fini les récoltes. Aussitôt que les orges ont été récoltées, Naomi a dit à Ruth, pas, comme on dit, d'y aller, de faire, de suivre les instructions, parce que Naomi, elle savait, elle, quoi faire, tandis que Ruth ne le savait pas.
Ben c'est ça,
Elle avait besoin d'enseignement, de savoir comment procéder pour être en contact. Et j'aime bien l'expression que Richard a dit par rapport
À
au
la fois
mauvais
la voix.
grain, la folle avoine, parce que l'avoine, elle, le grain d'avoine, la tête, elle casse au complet, puis le grain tombe complètement à terre. Tandis que le blé, c'est pas pareil. Le blé, la tête plie parce que le grain, il a durci, puis il donne du poids. C'est la même image qu'on voit ici.
Mais on voit par exemple, Daniel, quand il dit ici, elle restait donc avec les servantes au verset 23 du chapitre 2, elle restait donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Donc le froment, c'est le blé.
Oui,
Fait
puis le blé
elle
est
avait
toujours
resté.
récolté plus tard.
Ouais, c'est ça. Ouais, le blé était plus tard. Puis là, il avait été jusqu'à la fin de la moisson, puis là, il venait le grain.
La persévérance.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle avait auparavant? Ben, c'était ce qu'elle avait glané, qu'elle avait peut-être une maigre ressource pour toute l'année, tandis que là, elle va être avec le propriétaire de la moisson.
Comme nous avec notre Créateur, notre Sauveur.
Exactement. Le thème du livre, c'est la rédemption.
Ouais.
D'habitude, Lévi a des questions. Ça nous
Où
manque.
On ira.
Il est en train de
Mais
charger son
c'est
fusil.
étonnant que.
Pardon, Aurel?
C'est étonnant pareil que Ruth s'est adonnée à aller dans le champ du parrain Naomi.
Oui.
C'est étonnant qui a parmi ça, là.
Ouais, ça, comme il dit, par bonheur. Mais le Seigneur était à l'arrière de tout ça. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Hein?
Héritier d'un père riche. Il y a un père il passait à un kiosque de l'Auto-Québec, puis les gens, ils disaient, tu prends pas de billets? Non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai un héritage. Mon père est millionnaire, est milliardaire. Ils ont dit, ah oui, c'est qui ton père? C'est le Seigneur Jésus-Christ.
Ouais.
C'est la même chose.
C'est Laurence
La même
Fortin.
Fortin.
Il disait
Oui.
ça. Mon papa céleste.
Mon père riche.
Oui, c'est ça. C'est des plus grandes richesses que la loterie.
Ah, oui.
Pas comparable.
Non.
une réflexion que je pourrais dire,
Oui, vas-y, Lévi.
c'est que Ruth vit une situation qu'elle n'aurait jamais vécue si elle avait demeuré dans son pays à Moab.
Exactement.
Alors, c'est la même chose pour nous. Si nous ne sommes pas, si nous n'avions pas venu à Jésus, nous n'aurions pas connu cette expérience que nous connaissons maintenant.
Non.
Ouais.
Ouais, ça, on aurait manqué. Ouais.
Et ce qu'on vit
Aurait des
maintenant,
amis.
c'est rien à comparer de ce qu'on va vivre plus tard.
On aurait des amis, oui.
Ouais.
Mais là, on a des frères.
C'est ça, oui.
Des frères et des
Ah,
sœurs.
ouais, on est encore plus
Allez.
proche.
Et puis, on est tous engendrés d'un même père.
C'est ça exactement. Par la parole vivante et permanente de Dieu.
Il y a quelqu'un qui me disait, un catholique qui me disait, il dit, ah, oh, c'est la même affaire, nous autres, il dit, c'est la même affaire que vous autres. Je lui dis, ouais, mais c'est parce que nous autres, on a une relation. Je lui dis, demain matin, débarque à Vancouver, puis appelle un catholique, puis dis, garde, je suis à Vancouver. Il va dire, oui, puis c'est quoi? Je lui dis, si t'es chrétien, tu vas arriver à Vancouver, tu vas appeler un chrétien, il va dire, ben viens à la maison, on va choisir, puis on va t'héberger, tu sais. Ouais, il dit, ouais. C'est ça la différence.
On est allé en Yougoslavie pour faire un travail pour le gars, le contracteur qu'on travaillait pour, il venait de là. Puis quand on est allé là, nous autres, on est allé visiter des gens, puis M. Djakovic, puis il dit, comment ça se fait que vous connaissez du monde ici? Ben, on ne les connaît pas, mais c'est pas long qu'on va les connaître. Il était étonné de ça, qu'on connaissait des gens en Yougoslavie, que lui, il sait plus même. Quand on est allé à l'Assemblée, sa femme a dit que son docteur il était là dans l'Assemblée. C'était un chrétien qui était à l'Assemblée, puis il avait dit ça, qu'il y avait des Canadiens, deux Canadiens qui étaient venus là pour faire un travail. Puis, il dit, comment ça se fait? Il dit, le docteur de ma femme vous connaît.
C'est extraordinaire de voir ça. Dimanche, à l'Assemblée, il y avait une jeune femme qui venait du Brésil, une sœur dans le Seigneur. Elle était rendue à Sainte-Marie-de-Beauce.
OK, oui.
C'est quoi? C'est le Seigneur qui dirige, hein?
Oui.
C'est comme tu viens de dire, si ça aurait été d'une autre religion, une autre croyance, une autre religion, il aurait dit, arrange-toi avec tes histoires. Hein?
Oui.
Ouais. Alors, il y
Mais
avait
c'est...
l'Assemblée, on l'a mis en contact avec un croyant de Rivière-du-Loup, Alzou, qui s'appelle, c'est un Brésilien d'origine.
OK, oui.
Oui, puis, mets-toi en contact avec, il va te guider comment marcher un peu au Québec.
Oui.
Parce
C'est
qu'il n'y a
ça,
pas de
oui. Qui
portugais, c'est
confie à
portugais.
l'Éternel trouve des chemins tout tracés.
Ouais,
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais,
Bon,
je
ben.
voudrais partager quelque chose.
Oui,
J'ai
OK.
lu aujourd'hui, tantôt, Gérald t'a parlé de le grain puis la moisson. Je lisais aujourd'hui dans Matthieu la parabole de l'ivraie, puis
Oui.
le bon grain. Mais ce qui m'encourage dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, ben, les anges ont voulu dire au Seigneur, bon, on va aller l'arracher, l'ivraie. Et
Ouais.
ça leur dit, non, 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 laissez-les croître tous les deux ensemble.
Ouais.
Et à la fin, ce qui m'encourage, il va y avoir une séparation faite par le Seigneur lui-même.
Ouais, c'est
C'est
ça.
là. Ce n'est pas à nous, aujourd'hui, dans le monde, de faire cette séparation-là, parce que nous, on ne sait pas qui va venir au Seigneur.
Ben, qui est vrai et qui est faux, hein?
Ben, c'est ça. C'est que nous, ce n'est pas notre but que le Seigneur nous appelle à faire. Notre but à nous, que le Seigneur nous donne, c'est d'aller prêcher l'Évangile, comme il a dit aux disciples, aller apporter la bonne nouvelle.
Ouais.
Et ce qui est réconfortant, c'est qu'à la fin, le Seigneur lui-même va faire la séparation. Et moi, ça me réconforte de voir que des fois, on est peut-être attristé de voir des choses qui passent autour de nous. Ça nous attriste, puis même des fois, on a une grosse peine. Mais le Seigneur, quand même, nous encourage, dit, très bon, continue de marcher. À la fin, tu vas voir le résultat. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ben, que le Seigneur puisse nous aider, nous accorder la grâce de marcher avec lui, mais de marcher pas comme le monde, Mais le Seigneur nous dit de marcher dans le monde, mais pas de marcher comme le monde.
Ouais, c'est ça.
Le Seigneur nous accorde la grâce de continuer à marcher et de répandre l'Évangile, puis qu'un jour, comme nos frères disaient tantôt, les vrais croyants, là, c'est là qu'on va les voir.
C'est ça, exactement.
Ouais. Ça m'encourage beaucoup.
Bon. Et ça, c'est qu'on va.
J'aimerais ça
OK.
rajouter quelque chose là-dessus.
OK.
La
Là, dans le
manière que je
thème, là.
comprends, la manière que je comprends aussi, c'est que il y a des gens autour de nous qu'on aime.
Oui.
Oui.
Puis que s'ils étaient enlevés, ça serait difficile pour nous.
Ouais.
Alors, c'est préférable qu'ils soient là. On
Ouais.
peut remercier Dieu pour ça aussi.
Ouais. Ouais, qui est patient. Qui, ouais. Fait qu'on va terminer avec un mot de prière. On pourrait jaser encore, mais si ceux qui doivent partir, on a dépassé un petit peu notre temps. Ceux qui doivent partir pourront le faire. Puis ceux qui veulent jaser, on pourra jaser encore. Seigneur notre Dieu, on te remercie parce que toi, Seigneur, tu connais les tiens. Et ton œuvre est parfaite, notre Dieu. On se confie en toi parce que ton œuvre est parfaite. Puis on se réjouit aussi de ce que c'est toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs. Tu connais chacun dans sa pensée. On te remercie pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu ici-bas sur la terre, puis qui, lui, oui, il s'est humilié jusque dans la mort, même jusque dans la mort de la croix, pour nous, à cause de nous, Seigneur. Comme le brigand pouvait dire à son ami sur la croix, celui-ci n'a rien fait de mal. Et nous, c'est ce que nous ont mérité nos crimes. On te remercie, notre Dieu, qu'il a pris notre place. On te rend grâce. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir. Bénis chacun, Seigneur. S'il y en avait, Seigneur, qui n'ont pas encore connu ton salut, puisqu'ils puissent le connaître en Jésus-Christ. On te remercie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.